buenos días, mi nombre es Susan Saavedra.
C'est pas du vent.
Buenos días, mi nombre es Hernán Castrillón.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Buenos días para todos. D'antemano, muchas gracias por su participación.
Le paysage est à couper le souffle, un dôme de sel boursouflé, de geysers, de sources chaudes, de lacs acides, de concrétions soufrées bordant des vasques d'un vert fluorescent surgit d'une plaine surchauffée. Nous sommes au nord de l'Éthiopie, au fond du rift africain, sur le site hydrothermal de Dalol, un lieu presque inexploré jusqu'en janvier dernier.
Chaleur, acidité, salinité, aridité. Au nord de l'Éthiopie, dans la dépression d'Anakil, le dôme de sel de Dalol réunit les conditions les plus extrêmes sur Terre. Mi-janvier 2016, une équipe scientifique internationale atterrit sur cette étrange planète. C'est la première fois que des biologistes, des écologistes microbiens, des géologues et des cristallographes viennent pour étudier l'environnement naturel de ce site unique. Dans des conditions souvent difficiles, ils vont tout tenter pour essayer de trouver des traces de vie là où tout s'oppose à son existence.
Et cette expédition, c'est vous qui l'avez montée, Olivier Grunewald, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur de documentaires et photographe. Nous vous avons déjà reçu dans C'est pas du vent en tant que chasseur d'aurores boréales. C'est une de vos autres passions. Mais aujourd'hui, donc, ce qui nous amène, c'est votre volonté de vouloir protéger ce site de Dalol. Alors l'idée a émergé il y a 8 ans, c'est ça ?
L'idée a émergé effectivement en 2008. C'était la troisième fois que je venais sur le site. Alors, c'est un site qui est fascinant. Moi, je suis vraiment tombé
oui,
sous le...
Y être allé trois fois, c'était déjà un luxe extrême, parce que c'est difficile d'accès.
C'est d'autant plus difficile que la première fois, en fait, c'est un site qui était tombé dans l'oubli, puisqu'il était isolé depuis plus de presque 30 ans à cause des problèmes de guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et en fait, il a été redécouvert par hasard. J'étais avec une mission de la Société de volcanologie de Genève. On était parti pour descendre dans le volcan Ertaalé, qui est plus au sud. Et on avait réussi à avoir l'appui d'un hélicoptère pour aller plus au nord, pour voir les zones où les mineurs extraient le sel. Donc des caravanes qui sont multimillénaires, puisqu'on a retrouvé des plaques de sel jusque dans les sables du Soudan. Et en fait, en volant avec l'hélicoptère pour repartir, on est passé au-dessus de cette zone extrêmement colorée. Le pilote connaissait cette zone pour y avoir volé de nuit, parce qu'il y a une espèce de dôme qui sont très humides, qui brillaient sous la pleine lune. Et il ne l'avait jamais vu de jour et il a décidé de se poser. La première fois, la redécouverte, on s'est posé 1h15. Donc on y est retourné une deuxième fois en 2002, puis il y a eu plusieurs autres voyages. Et en 2008... ont commencé à circuler les bruits d'une exploitation à très très grande échelle de la potasse. Puisqu'en fait, Dalol a été découvert en 1908, pas du tout pour une histoire de dôme hydrothermal, mais pour l'exploitation de la potasse, qui a en plus servi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à remplacer la potasse qui était utilisée par les Allemands, qui était vraiment, il y avait une mainmise de la potasse par les Allemands. Donc les Italiens ont exploité la potasse à Dalol, pour pouvoir la vendre et l'utiliser pour de l'armement pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a eu toutes sortes d'histoires. Le site avait complètement disparu des cartes, quasiment. Et l'exploitation de la potasse, les projets ont recommencé. Et en 2008, on s'est rendu compte que si les projets étaient très importants, ils risquaient d'assécher complètement la zone hydrothermale de Dalol et de faire mourir un site extraordinaire.
Ouais. Alors que vous avez eu l'intuition qu'il y avait des formes de vie microscopiques qui pouvaient vivre là.
En fait, l'intuition, elle est venue d'une nuit où je suis parti tout seul à minuit pour aller marcher sur le sommet du dôme pour faire des photos de nuit avec le ciel étoilé. Et je me suis retrouvé pendant plusieurs heures tout seul. C'est assez impressionnant. On a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Là, c'est vraiment le voyage interplanétaire. Et ayant beaucoup travaillé sur des zones hydrothermales, dans le Yellowstone, au Kamchatka, je savais que la vie était... Enfin, on suppose que la vie est apparue dans les zones hydrothermales. Et je me suis dit, ça serait vraiment intéressant de savoir s'il y a de la vie ici. Et est-ce que ça ne serait pas aussi un moyen de valoriser ce site qui est déjà au niveau paysager extraordinaire et de le valoriser sur un autre aspect pour essayer d'inciter les autorités éthiopiennes à le protéger et éventuellement à demander à faire un dossier pour l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Alors, 8 années plus tard, hein, comme quoi vous êtes tenace, l'expédition a eu lieu. Alors, vous y étiez, Purificación López García, bonjour.
Bonjour.
Vous co-dirigez avec David Moreira le laboratoire de recherche sur la diversité microbienne et son évolution, notamment dans les environnements extrêmes au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique à l'Université Paris-Sud. Alors, expliquez-nous tout d'abord ce que c'est que la diversité microbienne.
En fait, les micro-organismes occupent la plupart de la biodiversité, donc la plupart des formes de vie sur Terre, même si on n'arrive pas à les voir à l'œil nu. Et c'est ça le champ de recherche qu'on étudie. C'est toute cette diversité microscopique à laquelle on peut avoir accès maintenant à travers des méthodes plus modernes, notamment d'analyse des séquences d'ADN.
Et alors, donc, vous avez étudié, vous, de nombreux milieux, notamment extrêmes, je disais, et notamment des milieux salins, hein, à Vandalol, au Mexique, au Chili.
Effectivement, les environnements extrêmes sont très intéressants parce que souvent, ils cachent une diversité des lignées d'organismes qui n'ont pas été étudiées de manière classique. Et ces organismes-là peuvent être intéressants pour nous aider à comprendre comment la vie a évolué sur cette planète-là et aussi pour comprendre quelles sont les adaptations moléculaires de ces organismes à ces conditions physico-chimiques qui sont extrêmes pour nous. Nos protéines seraient dénaturées, on ne serait pas capable de vivre comme ces organismes-là qui développent tout leur cycle de vie, peuvent se diviser dans des conditions de très fortes températures, des pH très acides, donc des eaux très acides, comme c'est le cas des Dalol, et des systèmes qui sont très salés, comme c'est aussi le cas des Dalol.
Alors Dalol, justement, réunirait les conditions les plus extrêmes sur Terre, on peut dire ça ?
C'est sûr que c'est un environnement multi-extrême. Et ce qui est intéressant à Dalol, c'est que c'est un site unique par la combinaison des paramètres extrêmes en même temps. D'autres sites hydrothermaux, comme c'est le cas de Yellowstone et d'autres, on peut trouver des températures très élevées et des eaux très acides, mais pas en même temps le sel. Et à Dalol, on trouve ces trois paramètres qui sont très extrêmes en même temps.
Donc, alors, des températures de quel ordre, par exemple ?
Les températures peuvent arriver à 15 degrés, on a mesuré sur place, à la surface, probablement c'est plus chaud en dessous. On a des eaux très très acides, et des eaux en saturation de sel.
Alors Olivier Grunewald, comment on explique cet écosystème très particulier ? C'est lié à quoi ? À la présence de la queue de la mer morte, j'ai envie de dire ?
Alors en fait, quand on parle de Dalol, on parle souvent du volcan de Dalol. Alors en fait, Dalol n'est pas un volcan puisqu'il n'y a pas d'émission de matériel magmatique à la surface. Tout ce que l'on va trouver, le dôme de Dalol est un dôme de sel. Tout ce que l'on va trouver, que ce soit blanc, que ce soit noir, que ce soit dur, enfin toutes les formes que l'on va trouver vont être... Alors il y a du sel avec des tas de choses. La dépression d'Anakil est à moins 120 mètres sous le niveau des mers. On se retrouve avec une croûte de sel qui fait plus de 1000 mètres, et certains parlent pratiquement de 2000 mètres d'épaisseur, dans lequel s'infiltre de l'eau qui provient de la mer Rouge et de l'eau qui provient des ruissellements des hauts plateaux éthiopiens qui sont à plus de 2000 mètres. Donc dès qu'il pleut sur les hauts plateaux, s'il pleut beaucoup, l'eau va s'écouler sur les pentes et va finalement arriver dans la zone de Dalol. Et ce qui fait la caractéristique, en fait, c'est qu'il y a une poche magmatique en profondeur, donc de la chaleur, et toute cette eau qui descend va se retrouver à se réchauffer, voire se vaporiser, et va remonter à la surface, chargée d'éléments minéraux, chargée de sel, chargée de toutes sortes de choses. Et en fait, ce dôme s'est construit par accumulation de ces dépôts liés à l'hydrothermalisme.
Alors c'est là où c'est un peu dommage d'être à la radio, parce que les images que vous avez faites sont absolument exceptionnelles. Et alors, Purificación, vous vous dites que ce site ressemble à ce que pouvait être notre planète il y a 3,5 milliards d'années, quand la vie est apparue ?
Certains éléments de ce site, effectivement, oui, pourraient ressembler à des environnements de la Terre primitive. On sait qu'au niveau de la Terre primitive, à cette époque-là, l'hydrothermalisme était beaucoup plus important parce que la planète était encore plus chaude que maintenant, était une planète qui venait de s'accréter, de se former, et elle avait besoin de dégager toute cette chaleur interne et le faisait à travers des systèmes qui pourraient ressembler à ce qui est aujourd'hui le site de Dalol.
Or, ce patrimoine géologique et biologique est aujourd'hui menacé par l'exploitation de la potasse, vous l'évoquiez tout à l'heure, et c'est pour cela que vous vous mobilisez. Nous en parlons juste après une détente musicale en compagnie de Jirma Beyene.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Ballu kobla la einochish erdale batish sankano deretish melkishis agenet sobekum gedainish melkishis agenet sobekum gedainish Almas nesh, Ethiopia with loga, hulu yadenek esh, kak olas kedega, yihew yetilishin, enchi metasebya, semish no kengidih, wezerit Ethiopia, semish no kengidih, Wezerit Ethiopia
C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de l'incroyable site hydrothermal de Dalol, dans le nord de l'Éthiopie, avec le photographe Olivier Grunewald et la microbiologiste Purification Lopez Garcia. Tous les deux investis dans cette aventure pour protéger ce site. Une aventure qui a démarré en janvier dernier, donc par une expédition avec des scientifiques, des géologues, des minéralogistes et des écologues français et espagnols. Quel était l'objectif, Purification, de cette expédition qui a duré une quinzaine de jours ?
D'un point de vue scientifique, l'objectif était double. D'une part, analyser la formation des cristaux, parce que c'est un véritable laboratoire de minéralogie avec un système très dynamique de formation et destruction des cristaux de toutes formes et couleurs. Donc c'est vraiment magnifique. Ça intéresse beaucoup nos collaborateurs minéralogistes. Et d'autre part, d'étudier la possibilité d'une vie microbienne sur place et adaptée à ces environnements très extrêmes. Et c'est la partie où on est en train de travailler dans mon équipe, dans mon laboratoire.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 mois ?
Depuis 4 mois, on avance dans toutes les directions. Et en ce qui concerne la détection des micro-organismes, nous avons, à travers des méthodes moléculaires d'analyse de la diversité, découvert la présence d'une diversité assez étonnante d'un type de micro-organismes qu'on appelle les archées, qui sont comme des bactéries par la forme, mais qui sont adaptées très souvent à des conditions extrêmes diverses.
Donc il n'y en aurait que là. Celle-là, elle n'existerait que là.
Elles existent. Elles sont des voisines ou des cousines dans d'autres environnements, mais celles qu'on a découvertes ici, à travers leur séquence d'ADN, elles forment des branches nouvelles. Donc on a quelques branches qui sont nouvelles. Il faut ensuite continuer les études pendant des années, peut-être, pour étudier toutes leurs propriétés.
Alors vous dites que c'est un site parfait pour essayer de comprendre justement la transition entre la géologie et la biologie, les mécanismes finalement qui ont permis au minéral de créer la vie.
En tout cas, c'est un environnement où les interactions micro-organismes-minérales sont très importantes et on pense que les micro-organismes qui habitent dans ce site-là sont des organismes qui peuvent faire de la matière organique à partir de la matière inorganique, de la matière minérale, si je puisse dire, et établir une chaîne trophique à partir de l'air et des minéraux.
Oui, c'est assez technique, évidemment. Oui, Olivier Grunewald, c'est difficile d'expliquer la microbiologie comme ça à la radio. Mais le but pour vous déjà est atteint, puisque l'idée, c'était de montrer qu'il y avait de la vie dans ce site incroyable de Dallol.
Dans un site où, en apparence, tout s'oppose à son existence. Parce que, en plus, c'était pour moi passionnant, parce que de voir justement s'extasier l'équipe avec de temps en temps des cris, pratiquement avec les systèmes de mesure de pH, où on se retrouvait avec des pH négatifs de moins 1,26 ou des choses comme ça. Il y a eu une journée où, je me souviens, pour Effication, t'étais à dire, mais on dépasse tous les records aujourd'hui, quoi.
Oui, c'est sûr.
Et c'est extraordinaire. En plus de me dire que quelque part, mon intuition n'était pas complètement fausse. C'est plutôt, c'est un côté satisfaisant, et de se dire que voilà, il y a un moyen après d'aller parler de ce site de Dallol, pas simplement d'un côté paysager, mais d'arriver à mixer à la fois le côté musée de la géologie vivante, puisque c'est un site tellement actif et tellement dynamique que quasiment on en parlait sur place, c'est presque un musée où l'exposition géologique change tous les jours, avec des choses, des sources qui s'assèchent, des formations qui changent de couleur. Il y a vraiment des choses, on s'est retrouvé à voir des choses, mais une dynamique extrêmement importante, et de se dire qu'on peut aussi apporter comme valorisation, de se dire que le site cache des secrets, justement, d'une vie adaptée à des températures de 110 degrés, des pH négatifs, une saturation en sel. Ça, c'est un moyen aussi de montrer que le site, il a une valeur double au niveau patrimoine pour, je dirais, pas simplement pour l'Éthiopie, mais pour les générations futures.
Oui, pour l'humanité, allons-y carrément. Hein.
Disons que c'est le terme patrimoine mondial de l'humanité.
Ouais. Et aujourd'hui, donc, quelles sont les menaces qui pèsent sur ce site?
La menace, c'est une exploitation de potasse à grande échelle.
Ça a commencé, il y a déjà des routes.
Il y a déjà des routes. Alors, l'exploitation n'a pas encore vraiment commencé parce qu'ils sont face à des problèmes techniques, mais c'est difficile d'avoir des informations parce que c'est un petit peu top secret. Mais ce que l'on comprend depuis 2008, c'est qu'il y a un problème technique à résoudre à cause des problèmes de très haute température du site, et où on n'arrive pas, ils n'ont pas encore réussi à lancer l'exploitation à grande échelle. Et l'idée pour essayer de sauver le site de Dallol, ça serait d'arriver à garder une sorte de corridor entre, disons, une sorte de zone tampon autour du dôme de Dallol, où il n'y ait pas de prélèvement d'eau, pour laisser vivre ce site hydrothermal. Donc ça veut dire une sorte de corridor où il n'y a pas de prélèvement depuis tout le bord de l'escarpement qui est situé à une vingtaine de kilomètres, et que tout autour, on garde ce site avec une zone sans exploitation, c'est évidemment le rêve. Et en plus, ce site est devenu important aussi pour les Afars, parce que c'est devenu un site touristique. Maintenant, il y a une route.
Les Afars qui sont.
Qui vivent sur place.
Qui vivent. Qui vit sur place.
Voilà. Ouais. C'est devenu. Donc, comme il y a une route qui amène à 30 km du dôme de Dallol dans un petit village, c'est une zone où maintenant il commence à y avoir plus de tourisme en Éthiopie que dans le site d'église de Lalibela. Et c'est vrai qu'on est dans une zone où, en plus, l'exploitation du sel est aussi quelque chose sur lequel il y a des menaces d'exploitation de manière industrielle, donc peut-être la fin des caravanes. Donc c'est vrai que pour les gens qui sont sur place, de garder une ressource par le tourisme en protégeant le site, c'est aussi un apport important.
Et donc aujourd'hui, la science s'en mêle, Purification, vous, à votre niveau, par exemple, essayer de faire en sorte qu'un site comme ça soit protégé au nom de la science?
On peut le tenter. En tout cas, nous, ce qu'on peut faire très concrètement, c'est étudier ce site-là, étudier les formes microbiennes qui sont là et le faire connaître. Donc, valoriser cette connaissance et essayer...
Par des articles, des publications.
Par des articles, des publications. De toute manière, c'est notre activité de montrer ça à l'échelle scientifique, mais aussi en faisant après de la vulgarisation pour communiquer nos résultats au grand public et faire reconnaître l'intérêt de ces sites, comme ça a été le cas à Yellowstone, par exemple.
Et vous allez donc mettre une étudiante en thèse sur ce site?
Oui, et il y a de quoi faire une thèse, et plusieurs. Et donc, effectivement, on a maintenant retenu une personne pour réaliser une thèse sur ce qu'on va trouver. Et qu'on est en train de trouver, d'ailleurs.
Et vous travaillez avec des équipes qui sont en Espagne aussi. C'est vraiment interdisciplinaire.
On a monté une expédition qui était internationale et interdisciplinaire avec des collègues espagnols, mais avec beaucoup de collègues français aussi à Paris. Nous sommes à Orsay, mais à Paris et à Brest. Donc, c'est une équipe très large et interdisciplinaire.
Et vous l'avez fait avec l'accord du gouvernement éthiopien, puisque vous avez eu une surveillance, je crois, de l'armée. Vous étiez escorté.
Alors, de toute façon, on ne peut pas, sur un site comme ça, soit... Bon, c'est un site où il y a pas mal de tourisme. Donc, on peut partir avec une agence de voyage et puis aller voir le site de Dalol. Mais pour nous, pour pouvoir travailler, il fallait des autorisations, surtout du gouvernement Afar, pour pouvoir non seulement aller travailler, rester, installer un campement près du dôme pour éviter des allers-retours, faire tous les jours des allers-retours, être vraiment au cœur du site. Et de toute façon, même les groupes de touristes qui vont sur le site sont toujours accompagnés par des militaires. Et donc, nous, on avait une équipe de militaires qui était avec nous, des gens mais extrêmement gentils, très serviables, qui passaient leur temps à nous aider à tout porter. Enfin, des gens mais extrêmement gentils. Mais c'est quand même une zone où il y a eu des attaques de groupes de touristes. On a même dû, nous, déplacer une journée notre camp pour retourner près du village parce que, un soir, on a vu arriver un camion avec une vingtaine de militaires qui se sont éparpillés dans les canyons. Et en fait, il y avait eu vent, mouvement de gens. On n'a jamais su trop ce qui s'est passé, mais comme on campait près d'une zone de canyon, c'était très facile d'arriver par les canyons et puis nous attaquer en pleine nuit. Il y a eu des groupes de touristes qui se sont fait attaquer à la Kalachnikov.
Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour que le gouvernement éthiopien soit sensible à votre volonté partagée, j'imagine, par d'autres, de protéger ce site ?
Quelque part, j'essaye de reproduire une situation avec des moyens différents qui s'est produite pour la protection du pays du Yellowstone. C'était en 1870 ou 72, je ne me souviens plus la date. Une équipe géologique a été travaillée dans ce pays sauvage du Yellowstone avec un photographe, un peintre, et ils ont décidé, ils ont été tellement subjugués par ce site.
Donc c'est aux États-Unis.
Aux États-Unis, pardon. Ils ont été tellement subjugués par ce site qu'ils ont décidé de tout faire pour soustraire ce lieu à la propriété privée, pour que ça devienne un bien public. Ils ont été montrer les photographies et les peintures au Congrès américain qui a voté la loi du premier parc national de l'histoire. C'est prétentieux de dire que je vais arriver à ce résultat-là. J'aimerais bien me dire que, là, actuellement, je travaille sur des articles pour la presse, plus un documentaire de 52 minutes. Et l'idée, c'est par ce documentaire de sensibiliser le public en général, mais surtout d'aller à Addis Abeba rencontrer les personnes responsables de la conservation de la nature en Éthiopie, d'aller dans le nord, dans la région, dans la ville de Mekele, de sensibiliser les personnes qui travaillent à l'université de Mekele. Et le but qui serait extraordinaire, enfin, si on arrivait au bout de notre projet, ça serait d'aller dans le petit village qui est à 30 km de Dalol, d'arriver avec de quoi faire un écran géant avec des draps et un système en bambou, fabriquer quelque chose, un groupe électrogène, une petite sono, et de pouvoir projeter le film aux gens du village, aux militaires qui tous les jours accompagnent des groupes ou qui sont
qui
pour la sécurité.
Qui se rendent compte de l'importance de ce site.
Ils sont les gardiens de ce site, quelque part.
Et face aux multinationales qui veulent exploiter la potasse, ils ne pèsent pas grand-chose.
S'il n'y a pas un peu d'idéalisme, on ne fera jamais rien. C'est-à-dire que les gens qui ont essayé de protéger le pays du Yellowstone, ils étaient face, pareil, à des intérêts de toutes sortes. Donc si on reste figé dans l'idée que, de toute façon, on n'y arrivera pas, on n'essaye pas.
Non, mais j'essaye pas, surtout pas de vous décourager.
Non, mais je pense qu'il faut essayer.
Ouais. Et alors justement, on peut participer, moi, les auditeurs, à cette aventure, puisque vous avez lancé une campagne de financement participatif sur le site KissKissBankBank.
Tout à fait, merci d'en parler. En fait, le documentaire que l'on réalise, faire un documentaire, déjà par chance, on a pu être aidé pour toute la partie mission scientifique par la Fondation IRIS, qui a financé l'intégralité de cette mission et donc aussi le tournage des images sur place. Mais réaliser, faire la, ce qu'on appelle la post-production d'un documentaire coûte cher. Et donc là, on a des finances réduites. Et qui dit finances réduites dit moins de temps, moins de moyens techniques.
Donc un moins beau film. Quoi.
Donc un moins beau film.
Si et on veut faire quelque chose de beau et que le message soit efficace, voilà. Il faut faire quelque chose de bien. Donc il faut du temps, donc il faut de l'argent. Et donc si on veut participer, si on se dit c'est une chouette aventure, moi j'y crois, il faut protéger ce site, aller interpeller le gouvernement éthiopien. Comment est-ce qu'on fait pour vous aider ?
Et ben, donc on va sur le site KissKissBankBank, on cherche le projet d'Alol aux frontières de la vie. Et on fait ce qu'on peut. Alors, le principe de ces collectes, c'est qu'il y a des retours. On essaye de dans les retours, il y a aussi, je dirais, pour telle somme, on va se retrouver à participer à l'avant-première, avoir son nom au générique. C'est le principe de ces collectes participatives.
Voilà, on peut avoir aussi des photos. Enfin, plus on donne, voilà. Plus les cadeaux sont fantastiques.
Voilà. Et donc, c'est des contreparties. Et je crois que... Moi, je crois beaucoup à ce principe parce que c'est un principe qui, maintenant, permet de voir apparaître des choses qui, si on reste dans les schémas traditionnels de la production dans l'art, dans n'importe quoi, on est bloqué parce qu'on dit non, ça sert à rien, puis de toute façon, ça marchera pas. Alors qu'il émerge des choses. Et je crois que le plus bel exemple de collecte participative, c'est le film Demain.
Le film Demain qui a donc mis en avant justement plein d'actions collaboratives et qui a été récompensé au César il y a quelques mois. Merci à tous les deux d'être passés dans C'est pas du vent. Bravo pour ce beau projet que Merci. L'on va suivre hein, dans C'est pas du vent. Vous nous tenez au courant évidemment de l'avancée. Tous les liens vers la campagne de collecte sont sur la page de l'émission www.rfi.fr. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.